Il est 8h.
Si on était sur un cas, une fermeture, on passerait sans doute de 1000 fermetures à 8000 comme on l'a connu avant la période de vacances.
Les chefs d'établissement s'attendent déjà à de nombreuses classes fermées. Dès la rentrée, si les règles strictes du mois de mars sont à nouveau appliquées à partir de lundi, point complet dès le début de ce journal sur le retour en classe primaire dans 4 jours maintenant. Il proclamait le retour de l'Amérique lors de son investiture. Aujourd'hui, Joe Biden réussit à réunir le pape et les présidents chinois, russes, indiens, français contre le réchauffement climatique. Et puis les tubes de Serge Gainsbourg, sublimé par André Manoukian. Il s'est mis au piano et a laissé le micro à Isabelle Adjani ainsi qu'à Mélodie Gardot et Camélia Jordana. L'album sort la nuit prochaine, mais sur Europe 1. Vous entendrez déjà des extraits. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Deux invités ce matin. Direction Israël tout d'abord avec le professeur Edelstein qui nous parle retour à la vie normale et vaccination. Et puis en avant-première, un espoir de traitement contre la Covid. Nous irons en Suisse. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous à 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Cela va bien au-delà du quotidien des familles. Ce qui commence lundi, c'est le début d'une période à haut risque sanitaire, donc politique aussi, à 2 mois de l'été. Alors que la vaccination est toujours prise entre aléas de livraison et pédagogie sur les bénéfices et les risques, eh bien le tout premier déconfinement, il a lieu en réalité dans 4 jours, avec le retour de plus de 6,5 millions d'élèves dans les écoles maternelles et primaires.
Virginie Riva, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la spécialiste des questions d'éducation à Europe 1. Il y en aura eu des réflexions depuis le Conseil de défense sanitaire d'hier matin à la conférence de presse de Jean Castex ce soir, 18h. À quoi faut-il s'attendre ?
Écoutez, à ce stade, on s'oriente vers la fermeture de classe dès l'apparition d'un seul cas, soit un protocole sanitaire strict. C'est celui qui a été testé pendant une semaine avant la fermeture des classes, mais seulement dans les 19 départements qui étaient alors confinés. Là, ça pourrait s'appliquer à tout le monde. Côté éducation nationale, on sait à quel point c'est compliqué à mettre en œuvre, mais le message qui sera martelé par Jean-Michel Blanquer aujourd'hui, c'est qu'on veut une école sûre. Le retour au protocole antérieur, soit la fermeture d'une classe avec 3 cas de Covid semblent de moins en moins privilégiés ces dernières heures, même si le ministère a dit hier soir au syndicat des personnels de direction que la décision entre les deux scénarios ne serait véritablement prise qu'aujourd'hui. On le comprend bien, en réalité c'est un enjeu énorme pour le gouvernement, attendu au tournant sur la rentrée. Il faut trouver l'équilibre entre un retour massif des élèves en maternelle et primaire et l'inquiétude des parents et du corps enseignant.
Oui, d'ailleurs, pour amortir tout cela, le gouvernement mise sur les autotests.
Oui, le ministère de l'Éducation nationale en a commandé 52,5 millions selon nos informations. L'idée dès lundi serait de les déployer auprès des personnels de l'Éducation nationale, pas des élèves, hein, car la Haute Autorité de Santé ne les recommande que pour les plus de 15 ans. La question ne se posera qu'à partir du 3 mai pour les élèves avec la réouverture des lycées. Mais sur ce dossier, c'est un bras de fer entre Olivier Véran, qui veut faire des établissements des hôpitaux de campagne, nous dit un connaisseur du dossier, et Jean-Michel Blanquer, qui ne veut pas trop mêler les enseignants à ces autotests. Également sur la table, une montée en puissance des tests salivaires. Avant ce confinement, 300 000 tests étaient proposés par semaine. Là, l'idée, c'est d'en avoir 1 million par semaine, proposés en priorité dans les zones où le virus circule intensément.
Merci Virginie Riva.
L'école, le 26 avril, les terrasses et les lieux culturels à la mi-mai, mais quand va-t-on rouvrir les commerces ?
Oui, vous savez ce qu'on disait, non essentiel. Leurs rideaux sont baissés, mais ils s'expriment haut et fort ce matin sur Europe 1 et dans le journal Le Parisien. Ils tambourinent même à la porte du gouvernement. Quelques heures avant que le Premier ministre ne parle, 300 signataires d'une tribune, les dirigeants de Kiabi comme de la Samaritaine, ceux de Sport 2000, Swarovski, Primark, Armor Luxe ou encore du Printemps.
Oui, le président du groupe Printemps, Jean-Marc Belaïch, est venu au micro de Sébastien Krebs ce matin, expliquer pourquoi lui et ses confrères demandaient instamment leur réouverture au 10 mai.
Il est prouvé aujourd'hui que les magasins ne contribuent pas à la diffusion du virus. Il y a de nombreuses études scientifiques qu'il a démontrées. Pour nous, et dans cette tribune, il est important de souligner deux choses. La première, c'est les conséquences économiques qui sont extrêmement lourdes pour les petits commerçants comme pour les gros. Et puis, je pense aussi aux conséquences humaines. Je crois qu'on représente près de 800 000 emplois en France. Donc c'est quand même énorme, 800 000 personnes qui, pour la grande majorité, sont au chômage partiel depuis plusieurs mois. C'est pour ça qu'on pense qu'il est important maintenant d'ouvrir et vivre normalement.
Jean-Marc Belaïche, qui était l'invité du 5-7 d'Europe 1. Ses patrons de grandes enseignes demandent aussi que leurs salariés puissent être vaccinés. À ce propos, on apprenait hier soir que la jeune entreprise française Valneva lançait son étude clinique de phase 3. 2000 volontaires recevront soit son vaccin, soit celui d'AstraZeneca pour comparer leur efficacité. Étude au Royaume-Uni, qui a largement financé ce projet. Valneva qui table sur l'automne 2021 pour demander son autorisation de mise sur le marché.
Alors qu'en France, en près de 4 mois, on a injecté 13 millions de doses, aux États-Unis, Joe Biden, cette nuit, n'a pas boudé son plaisir en annonçant que son pays avait atteint en avance son objectif de vaccination.
Today, we did it. Today, we hit 200 million shots.
Nous l'avons fait. 200 millions d'injections au 92e jour de mandat, se félicite le président américain. Réussite incroyable pour la nation, dit-il. Autre défi que lance Joe Biden aujourd'hui. Défi qui s'adresse au monde entier. Revoir à la hausse les ambitions écologiques.
Bonjour Sonia Dridi.
Bonjour.
Vous êtes en ligne de Washington pour Europe 1. Avec son sommet pour le climat, Joe Biden veut se poser en leader de cette question.
Oui, Joe Biden veut placer les États-Unis au centre de la lutte contre le changement climatique. Il souhaite aussi redonner de la crédibilité à Washington sur ce dossier et tourner définitivement la page Trump, dont l'administration était remplie de climato-sceptiques. Biden avait déjà commencé à le faire dès son arrivée au pouvoir en rejoignant l'accord de Paris sur le climat que Trump avait quitté en fanfare. Hier, une responsable de la Maison-Blanche a déclaré « Il n'y a pas de plus grand défi pour les États-Unis que de combattre la crise climatique ». Selon le Wall Street Journal, Washington pourrait annoncer la réduction de ses émissions de CO2 de moitié d'ici 2030. L'administration Biden a prévenu, elle va faire pression sur ses invités pour qu'ils relèvent leurs ambitions sur le climat. Une quarantaine de dirigeants seront présents à ce sommet virtuel, dont les présidents chinois et russes, malgré leurs relations tendues actuellement avec le président américain. Vladimir Poutine a promis que la Russie allait agir sévèrement pour lutter contre le changement climatique. L'Union européenne devrait, elle, faire figure de bon élève, puisque les États membres se sont mis d'accord pour réduire d'au moins 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990.
Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 à Washington.
Vladimir Poutine sera présent à ce sommet en visioconférence. Hier, il livrait sa vision de l'état de son pays.
En faisant cette mise en garde très claire contre les Occidentaux face aux critiques sur la présence de troupes russes à la frontière ukrainienne ou encore sur le soutien affiché à l'opposant Alexei Navalny.
Nous ne voulons pas brûler les ponts.
Non.
Mais si quelqu'un prend notre bonne volonté pour de la faiblesse, alors finalement, ces ponts seront brûlés ou rompus. Et ce quelqu'un doit savoir que la réponse de la Russie sera asymétrique, rapide et féroce.
Vladimir Poutine, hier, 1200 personnes ont été arrêtées lors de différentes manifestations en soutien à Navalny en Russie. La démocratie à la française. Et cette question totalement casse-tête pour les candidats au régional. Comment faire campagne sans se faire la bise, sans poignée de main? Rappelons que le scrutin a lieu dans 2 mois, les 20 et les 27 juin prochains.
Bonjour Aurélie Herbemont.
Bonjour.
Les candidats sont donc tenus d'innover, et notamment les challengers qui rêvent de faire chuter les sortants malgré un déficit de notoriété.
Et oui, oubliez les grands meetings, place aux micro-réunions avec 5-6 personnes qu'il faut donc multiplier. Oubliez les centaines de mains serrées, l'heure est aux gestes barrières. Nicolas Forissier, tête de liste LR en Centre-Val de Loire, avait pourtant été initié au classique de la campagne par un ancien président.
Je me rappelle d'une phrase de Jacques Chirac me disant « La politique, c'est des poignées de main et du papier ». Donc déjà, les poignées de main, c'est fini. Et le papier, comme c'est quand même plus compliqué de tracter et qu'on peut pas mettre trop de monde partout, bah on essaie de cibler la distribution, mais le papier reste important, notamment vous avez un certain nombre de gens qui ont besoin d'avoir un journal pour se décider plutôt qu'un post Facebook qu'ils vont peut-être pas forcément regarder.
Alors Aurélie, tous les électeurs ne passent pas leur vie sur les réseaux sociaux, mais quand même, Internet va jouer un rôle crucial dans cette campagne.
Et oui, vous aimez ou pas d'ailleurs les réunions Zoom pour le travail, voici les meetings virtuels. Et selon Julien Bayou, tête de liste écologiste en Île-de-France, ça n'est pas forcément une mauvaise chose.
Le fait de passer par les réseaux sociaux permet à des personnes qui sont curieuses de passer une tête, entre guillemets, sur des réunions en ligne, alors qu'elles ne l'auraient pas fait si elles avaient dû se déplacer en physique.
Et Internet offre des possibilités multiples. La course aux idées originales est ouverte. Marc Fesneau, ministre et candidat dans le centre, va faire une série de podcasts et répondre en vidéo d'une minute à tous ceux qui viendront déposer des questions pendant la tournée de son camion de campagne. Dans les Hauts-de-France, Karima Deli, candidate de la gauche, diffuse une vidéo par semaine de 3 minutes, son Daily News, pendant que la ministre Geneviève Darrieussecq ne désespère pas d'organiser quelques événements sur la plage en fin de campagne, profitant des 120 km de côte en Nouvelle-Aquitaine.
Merci Aurélie Herbemont du service politique d'Europe.
Oui, on s'est pris aussi à imaginer le podcast politique des régionales par famille politique. Bon, pourquoi pas, on verra ce que ça. Il ne faut pas se moquer avant. Colère chez les pêcheurs des Hauts-de-France qui attendent toujours que le Royaume-Uni leur accorde des licences.
Oui, ils en ont besoin désormais pour aller pêcher dans les eaux britanniques. Mais presque 4 mois après l'accord de Brexit, 22 autorisations seulement ont été données sur une centaine de bateaux concernés. Ça commence à râler sur les quais. Question de survie bien souvent. Les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer prévoit des actions dès ce soir contre les importations de poissons britanniques. Lionel Gougelot.
Aujourd'hui, la preuve est là, on n'a pas l'accès aux eaux anglaises et la vraie question, c'est de savoir si, voilà, on ne nous a pas menti.
Stéphane Pinto, comme tous les pêcheurs boulonnais, pensait que l'accord sur le Brexit et les engagements des gouvernements lui permettraient de poursuivre normalement son activité. Aujourd'hui, c'est la déconvenue.
Parce que nous, en entendant dire notre gouvernement, nous n'abandonnerons pas la pêche, c'est très très important que de pouvoir avoir accès dans les eaux anglaises. Au final, on s'aperçoit quelque part qu'on a été quand même abandonné.
Sur le littoral des Hauts-de-France, à peine un cinquième des navires de pêche ont obtenu les autorisations d'accès aux eaux britanniques. Les autorités outre-Manche ayant conditionné l'attribution des licences à des critères très stricts. Mais ça, on l'a découvert après l'accord, constate Olivier Leprêtre, le président du comité des pêches.
Personne ne le savait. Et M. Barnier, pareil, je pense qu'il est un peu surpris, parce que bien évidemment qu'il a traité du mieux possible l'accord global, mais c'est pas lui-même qui est allé en profondeur voir ce qui allait et ce qui allait pas. Là, il faut que ça bouge, parce que les bateaux attendent depuis 4 mois maintenant, donc c'est d'extrême urgence.
Parce que la ressource dans les eaux britanniques, cela représente en moyenne 60% de l'activité de la pêche à Boulogne, et si aucune solution n'est trouvée d'ici l'été, la moitié de la flotte pourrait disparaître, et une partie de la filière avec. À Boulogne-sur-Mer, Lionel Gougelot, Europe 1.
Il est l'auteur, il est auteur-compositeur et pianiste. André Manoukian est également un grand admirateur de Serge Gainsbourg, qu'il célèbre à sa manière dans un album.
Oui, lui qui se dit amoureux des voix, n'interprète pas lui-même les grands classiques de Gainsbourg, qu'il confie à plusieurs chanteuses. Angèle Châtelier nous fait découvrir cet album.
Babylon, in Babylon.
André Manoukian est au piano. Les voix, ce sont celles d'Isabelle Adjani, Camille Lelouch, Mélodie Gardot. Toutes réinterprètent les chansons de jazz de Gainsbourg, celles de sa période bleue, comme il l'appelait, à partir de la fin des années 60. Il y a Black Trombone, par exemple, reprise par Camélia Jordana.
Black Trombone, monotone.
Le reste du disque, André Manoukian nous le détaille.
Quand j'ai appelé Mélodie Gardot, elle m'a dit « Moi, je veux faire la javanaise ».
En dansant la javanaise.
Avec Élodie Frégé, on jouait ce mortel ennui depuis longtemps. Rosemary Stanley, elle, c'était la chanson de Prévert qui lui allait tellement bien.
À chaque fois, les feuilles mortes.
Où il y a toutes ces chansons un peu mythiques que la jeune génération commence à connaître parce qu'elles sont devenues cultes. C'était les chansons de ses débuts. Mais justement, c'est resté des pépites tellement, tellement dingues.
Comme la chanson « Sous le soleil », exactement, ici chantée par Isabelle Adjani.
Sous le soleil, exactement. Passe à côté, pas n'importe où. Sous le soleil, exactement, juste en dessous.
C'est tout à fait délicat, l'album s'appelle « Les pianos de Gainsbourg », vous l'aurez découvert en avant-première sur Europe 1, ça fait envie, il sort la nuit prochaine.
La nuit prochaine, et on a déjà eu ces extraits, il y a quelques morceaux qui ont l'air vraiment vraiment très sympas pour le coup, André Manoukian. Donc merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1, il est 8h14.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et dans un tout petit instant, nous retrouvons Sonia Mabrouk et ses invités, le professeur Michael Edelstein et Jésus-Martin Garcia, directeur général de la biotech Généro. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et ses invités. Ce matin, le professeur Michael Edelstein, expert israélien de santé publique, accompagné de Jésus-Martin Garcia, directeur général de la biotech franco-suisse Généro.
Bonjour professeur Michael Edelstein.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste, vous êtes une figure reconnue à l'international dans la recherche sur les maladies infectieuses. Tandis qu'en France, on prépare une levée progressive des restrictions à la mi-mai, il est intéressant de retenir les leçons de la situation en Israël, où depuis quelques jours, porter un masque en extérieur n'est plus obligatoire. C'est un pas important et symbolique dans la reprise d'une vie normale ?
Je pense que c'est surtout effectivement la valeur symbolique qui montre que, principalement grâce à la vaccination, on arrive graduellement à revenir vers un semblant de vie normale. Et un masque, c'est quand même quelque chose d'extrêmement visible. Donc le fait de voir des gens ne pas porter le masque sans s'exposer au risque d'infection à l'extérieur, c'est vrai que c'est quand même une étape importante.
Et les chiffres sont édifiants, 0,3% seulement de tests positifs et quelques 200 malades graves de la Covid dans tout le pays. Des unités spéciales aussi coronavirus qui ferment dans les hôpitaux. Diriez-vous, professeur, que vous êtes proche de l'immunité collective ?
Effectivement, on voit l'impact très rapide, donc je pense que oui, en tout cas, si on n'y est pas encore, on atteint cet objectif.
Il y a un pays qui inquiète car il déroute. C'est un bon élève de la vaccination et pourtant, il y a une résurgence du virus avec un nombre important d'infections. C'est le Chili. Comment vous l'expliquez ?
En Israël, on a observé le même phénomène. C'est-à-dire qu'il y a en fait une période où la vaccination augmente de manière très rapide, mais elle n'est pas suffisante pour vraiment endiguer la transmission. Donc je crois que le Chili est à peu près autour de 35% de cas vaccinés et effectivement on voit une augmentation. En Israël, quand on était à peu près au même point, on avait encore plusieurs milliers de cas par jour. Pour arriver à endiguer la transmission, il faut arriver à des taux de vaccination qui sont assez élevés, qui sont au-delà de 50%, et c'est à peu près aux alentours de 50-55% qu'en Israël on a commencé à voir vraiment un impact. Donc l'erreur à ne pas commettre, qui est un petit peu commise au Chili en ce moment, c'est de se dire on arrive à 30%, les gens se font vacciner. Et donc, on peut se permettre d'être un peu moins strict avec la distanciation sociale, avec les masques, avec les autres mesures qui permettent de contenir la...
Donc, c'est un relâchement, professeur Adelstein, qui expliquerait cette résurgence de l'épidémie en partie ?
C'est en partie, je pense, un relâchement et en partie le fait qu'ils n'ont pas encore atteint une proportion suffisante. Donc, vraiment, le message pour le Chili, c'est de continuer avec la vaccination, de persévérer encore un petit peu avec les autres mesures. Effectivement, quand on regarde Israël, on se rend compte que c'est possible, au final, de commencer à graduellement enlever ces autres mesures.
C'est possible avec, malgré tout, une incertitude liée aux variants. Et il y en a un qui suscite une vraie appréhension. Il s'agit du variant indien qui résulte de plusieurs mutations. Que savez-vous à son sujet ? Et surtout, est-il résistant au vaccin ?
On n'a pas encore les réponses. Bon, il y a eu 7 cas, par exemple, de variants indiens en Israël. Il faut bien comprendre que le vaccin, ce n'est pas une solution magique et c'est une solution qui existe dans le contexte d'autres mesures telles que la surveillance continuelle, le testage continuel, etc. Mais en tout cas, pour le moment, on se focalise sur les bonnes nouvelles qui sont que le vaccin marche contre la plupart ou toutes les variantes qui sont les plus courantes, la souche de base, la variante britannique et la variante sud-africaine.
C'est très important, évidemment, professeur Adelstein, et Israël reste un laboratoire de cette vaccination massive. Mais est-ce qu'il y a malgré tout des malades graves, voire des morts, y compris chez les gens vaccinés ?
Il n'y a aucune mesure qui est efficace à 100%, mais on parle d'une efficacité à 97-98% contre la mortalité. Donc c'est possible, mais ça reste extrêmement rare.
Vous avez dit tout à l'heure, professeur Adelstein, que la vaccination, évidemment, c'est essentiel, mais ce n'est pas la solution magique. Est-ce qu'elle sera suffisante ? De plus en plus de responsables de santé publique affirment qu'il ne faut pas vivre avec le virus, qu'il faut des stratégies d'éradication du virus, sinon on ira de variant en variant. Comment vous réagissez à cela ?
L'objectif d'éradication, effectivement, c'est un objectif idéal. Je ne suis pas persuadé qu'il soit réaliste dans la situation actuelle avec le nombre de cas, etc. Si on arrive à diminuer le nombre de cas grâce à la vaccination et grâce aux autres mesures et à atteindre une incidence relativement basse, alors ça devient possible, effectivement, de contrôler chaque petite épidémie et d'atteindre l'éradication. Mais je pense qu'au niveau du court terme, ça sera assez difficile. Et je pense que la vaccination, c'est ce qui va permettre, à court terme au moins, de revenir à une situation plus normale et ensuite de pouvoir envisager l'éradication dans un deuxième temps.
Et pour l'instant, en tous les cas, Israël envisage et met en place la fin de l'obligation du masque à l'extérieur, l'une des premières mesures d'un retour à la vie normale. Merci à vous, professeur Michael Adelstein.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Bonne journée et à bientôt.
Au revoir.
Alors après Israël et le focus sur la vaccination de masse, je vous propose de partir à présent en Suisse pour évoquer une avancée prometteuse sur les traitements et médicaments anti-Covid. C'est en tous les cas un espoir important. Bonjour à vous, Jésus-Martin Garcia.
Bonjour Sonia.
Vous êtes le directeur général de Généro. C'est une biotech franco-suisse qui tient potentiellement un espoir de traitement contre les formes graves de la Covid. On va rester prudent, mais tout d'abord, pourquoi est-il important, dites-nous de votre point de vue, de trouver un traitement et de ne pas seulement compter sur les vaccins pour vaincre l'épidémie ?
Écoutez, comme vient de le dire le professeur Edelstein, les vaccins, nous espérons tous, vont réduire de manière très importante le nombre de cas. Et le scénario optimiste que nous suivons tous, c'est qu'on passe d'une situation pandémique à une situation endémique, du style de la grippe saisonnière, avec beaucoup moins de cas. Mais le problème restera comment traiter les personnes qui sont infectées lorsqu'elles commencent à développer des symptômes pour qu'elles n'évoluent pas vers des formes graves de la maladie qui, elles, ont besoin de moyens très lourds pour la traiter. En plus de ça, aujourd'hui, nous avons un deuxième problème qui sont les syndromes post-Covid parce qu'après la période d'infection, une fois que les personnes sont négatives, on voit que 10%, certains même parlent de plus, mais de 10% des cas développe des syndromes qui sont très handicapants, de nature généralement neurologique ou neuropsychiatrique.
Et Jésus-Martin Garcia, avec votre biotech, vous avez un candidat médicament qui est pensé tout d'abord contre la sclérose en plaques, c'est le temelimab, cet anticorps monoclonal qui pourrait se révéler efficace contre la Covid.
Absolument, nous ne sommes pas une société qui au départ est tournée vers le Covid, nous sommes vraiment déterminé depuis notre départ à neutraliser des protéines qui ont contaminé nos ancêtres et qui sont restées dans notre ADN. Il y en a deux en particulier qui nous intéressent, le WHANV et le KHANV. Et le WHANV est une protéine que l'on trouve principalement dans des maladies neurologiques, neurodégénératives, comme par exemple la sclérose en plaques. Mais c'est des découvertes qui ont été annoncées la semaine passée, faites par l'Université de Rome Tor Vergata et le Centre international de recherche en infectiologie à Lyon, qui ont en fait découvert cette protéine dans le sang des patients atteints de Covid. Et ça, c'était une grande surprise. Et c'est une protéine qui est très inflammatoire. C'est une surprise de la retrouver en de telles quantités dans le sang. Et il est possible que cette protéine, effectivement, comme c'est supposé par ses publications, joue le rôle d'huile sur le feu dans la partie aiguë de la maladie, mais pourrait aussi expliquer pas mal des syndromes neurologiques et neuropsychiatriques, puisque c'est exactement le type de maladie que nous traitons.
Et ça, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'elle pourrait lutter contre les formes graves de la maladie, mais aussi les formes longues de Covid avec des symptômes neurologiques persistants. Et on devrait en parler davantage, parce que malheureusement, ce sont des conséquences extrêmement lourdes.
Absolument. On parle aujourd'hui 10%, voire certains dans la littérature, on parle de 30% des patients qui développent des syndromes vraiment très handicapants, de style des neuropathies, des pertes cognitives, même des syndromes psychotiques. Et aujourd'hui, on n'avait absolument aucune idée du pourquoi. Et ces découvertes, en fait, amènent une lumière sur le fonctionnement du virus qui pourrait peut-être, en tout cas en partie, les expliquer. Et la bonne nouvelle, effectivement, c'est que nous avons des médicaments contre ces protéines qui ont été utilisés déjà sur des centaines de patients atteints de sclérose en plaques avec des résultats très prometteurs, mais qui pourraient aussi maintenant être essayés dans le domaine du Covid.
Alors justement, j'allais vous en parler. Si toutes les études se révèlent concluantes, quel serait le délai pour que le temelimab puisse être mis sur le marché ? Est-ce que vous avez un horizon à court, à moyen terme ?
Je pense qu'il faut voir deux types d'essais cliniques. Le premier type d'essais cliniques qui est relativement à court terme sur les patients en forme aiguë, donc des patients qui commencent à développer des symptômes et à qui on pourrait administrer du temelimab pour voir si cela évite l'évolution vers les formes graves. Ça, c'est quelque chose qui commencera cet été. Mmh. Ensuite, il y a pour les formes longues, je pense que les premières cohortes sont en train d'organiser pour essayer d'avoir des groupes de patients avec des syndromes cohérents, neurodégénératifs. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait aussi débuter cet automne et avec une visibilité, j'espère, aussi pour l'année prochaine.
Jésus-Martin Garcia, on vous écoute et je pense et je l'espère nos auditeurs également ce matin sur Europe 1 avec beaucoup, beaucoup d'attention. Je l'ai rappelé, vous êtes le directeur général de Généro, c'est une biotech franco-suisse. Le risque, malgré tout, ce sont les espoirs déçus. Il y a eu un engouement autour de quelques traitements, malheureusement, qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Là, est-ce que vous êtes malgré tout optimiste ? Est-ce que les chances d'aboutir vraiment à un médicament contre la Covid et les formes longues peuvent être réelles et tangibles ?
La découverte de cette protéine dans le sang du patient, effectivement, cela nous donne un angle d'attaque sur ce virus qui n'existait pas auparavant. Et la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que nous avons effectivement un médicament, un candidat médicament qui est prêt à aller en clinique rapidement. Il est sûr que cette protéine contribue au problème. Maintenant, est-ce qu'elle contribue à 10% du problème, à 50% du problème ou à 90% du problème? Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas aujourd'hui.
Bien
que
sûr.
Personne
et on entend votre prudence, mais ce qui est important, c'est ce que vous nous avez dit au début, c'est aussi de stopper les premiers symptômes. Ça, c'est essentiel et ce sera grâce au traitement.
C'est d'arrêter la maladie effectivement aux premiers symptômes. Et là, il faut véritablement le développement de traitement. Et c'est pour ça qu'il est tellement important que les chercheurs à travers le monde, et particulièrement en Europe, on a une très très grande excellence de la recherche, continue à regarder le problème et trouver des angles, si vous voulez, avec lesquels on peut enrayer la progression de ce virus. Mais moi, je suis très très préoccupé. Je pense que nous sommes aujourd'hui tous de plus en plus préoccupés par ces formes graves, des gens qui ne sont plus positifs, mais effectivement, il y a chez eux le développement de syndromes très handicapants. Et la question, c'est comment les enrayer. Et là, effectivement, la maladie ressemble pas mal à certaines des maladies neurodégénératives sur lesquelles nous étions déjà bien avancés. Et si nous pouvons contribuer, nous serons absolument ravis de le faire.
Évidemment, c'est essentiel de rappeler que dans la lutte contre cette maladie, il y a la vaccination et il y a aussi l'espoir et la recherche que vous incarnez notamment pour trouver des traitements. Merci beaucoup, Jésus-Martin Garcia.
Avec plaisir.
Et à bientôt, on l'espère, avec un médicament contre les formes graves. Ce serait une formidable avancée. Bonne journée à vous.
Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h28 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre l'info avec Théo Manval, la météo de Laurent Cabrol, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau journal avec Théo Manval.
Un sommet mondial pour le climat. En cette journée de la Terre, le président américain Joe Biden, à l'initiative, prendra la parole devant une quarantaine de dirigeants réunis par visioconférence tout à l'heure. Les États-Unis doivent annoncer leur objectif rehaussé de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, tout comme la Chine, qui promet de grandes annonces relayées déjà par la presse du régime à Pékin. Sébastien Lebelzik.
Xi Jinping doit prononcer un discours à l'occasion des Journées de la Terre organisées par la Maison-Blanche. Le Global Times nous décrit un président chinois champion du monde de la protection de l'environnement. Rien que ça, grâce à ses ambitions comme la neutralité carbone dès 2060 pour la Chine ou encore ses technologies vertes. Toute la presse officielle est sur la même longueur d'onde et il faut aller sur Internet pour trouver un autre son de cloche. Le magazine en ligne Sixtone nous parle ainsi des ONG chinoises combattues lorsqu'elles attaquent le gouvernement, mais qui malgré tout multiplient les actions en justice pour se faire entendre. Le journal nous dresse ainsi le portrait de Zhang Bojiu, un lanceur d'alerte qui a réussi à faire condamner des dizaines d'entreprises pour violation des lois sur l'environnement, tout en échappant lui-même à la prison. Un exploit en Chine.
Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 à Pékin. Et cette journée de la Terre est aussi l'occasion chez nous de revoir certaines idées reçues sur le bien fondé de certaines initiatives perçues comme vertes. Les centrales biomasse qui se développent aux quatre coins de la France pour produire de l'énergie à partir de copeaux de bois. Ça a l'air écolo, mais un collectif de 50 médecins de Strasbourg lance un cri d'alarme, Arthur Elmbaché. Il réclame rien de moins que l'arrêt complet de ces centrales biomasse.
Oui, de la version industrielle de votre cheminée ou de votre poêle à bois, ces centrales qui ont la cote, qui sortent de terre un peu partout, deux très récemment ici à Strasbourg, extrait de la vidéo promotionnelle de celle du port du Rhin.
Les fumées issues de la combustion sont soigneusement filtrées avant d'être évacuées par la cheminée. Ainsi, la transition énergétique se construit pas à pas.
Il faut en finir avec le mythe du bois énergie propre, disent les signataires de la tribune, dont le docteur Thomas Bourdrel.
De dire que c'est une énergie écolo, c'est faux. On nous vend ça comme quelque chose de propre et d'écolo parce que c'est l'énergie renouvelable et circulaire. Et en fait, c'est complètement faux. En termes de composition, c'est les particules les plus toxiques. Une particule diesel et une particule de bois sont vraiment identiques. Elles passent le poumon, elles passent dans le sang. Ensuite, on sait que ces particules ultra fines, elles passent le placenta, elles peuvent donner des troubles de la croissance chez le fœtus, des maladies neurologiques également. Elles entraînent une réaction qui va favoriser la survenue d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral.
Dans la nouvelle équipe écologiste aux manettes à Strasbourg, on nous explique qu'aucune énergie n'est parfaite, qu'à côté du pétrole ou du gaz, le bois fait partie des moins pires. La ville qui subventionne par ailleurs le renouvellement chez les particuliers, des vieux poêles et des vieilles cheminées, gros pourvoyeurs de particules fines.
Arthur Elmbaché à Strasbourg pour Europe 1. À Tourcoing, une nouvelle étape franchie dans la violence de ces derniers jours. Hier, c'est le domicile d'un policier qui a été visé par des tirs de feu d'artifice. 5 fusées lancées sur sa maison, heureusement sans faire de blessés. Les auteurs sont recherchés, Lionel Gougelot.
Habitant de ce quartier de Tourcoing depuis plusieurs années, mais en poste au commissariat de Roubaix, le policier était en repos en famille hier après-midi quand il a entendu le bruit de 3 mortiers d'artifice percuter la façade de sa maison. En sortant sur le pas de sa porte, il a été visé par 2 autres fusées qu'il a pu éviter de justesse. Heureusement, pas de blessés, mais un fonctionnaire ciblé à son domicile parce que policier, voilà une étape supplémentaire dans la violence particulièrement inquiétante selon Benoît Aristidou, représentant local du syndicat SGP Unité Police.
Si on vient carrément chercher les forces de l'ordre à leur domicile, ça risque de très mal se passer parce que forcément, en face, il y a quand même des familles. On est là pour défendre les citoyens, on n'est pas là pour se faire attaquer chez soi. En dehors de notre vie professionnelle qui est déjà très compliquée, si en plus on n'est pas serein chez soi, forcément ça fait peur. Puis forcément, on a une famille aussi à protéger. Hein.
La vidéosurveillance et des images circulant sur certains réseaux sociaux permettront peut-être d'identifier les auteurs qui sont activement recherchés. En attendant, une protection policière a été mise en place autour du domicile du fonctionnaire. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Toujours au volet judiciaire, un possible complice de l'auteur de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, arrêté en Italie. C'est un ressortissant albanais âgé de 28 ans, soupçonné de lui avoir fourni un fusil d'assaut. On connaîtra ce soir le détail du nouveau protocole sanitaire pour la réouverture des écoles maternelles et primaires à partir de lundi prochain. Jean-Michel Blanquer doit le détailler en conférence de presse aux côtés du Premier ministre. On s'oriente vers une fermeture des classes dès le premier cas de Covid détecté, non plus à partir de 3 cas comme ici. Pour le reste, l'exécutif maintient l'objectif d'alléger progressivement le confinement à partir du mois prochain. La limite des 10 km et l'attestation devraient sauter dès le week-end du 3 mai. Les terrasses et lieux de culture devraient bien rouvrir à la mi-mai. Le président de la République lui-même en précisera les conditions d'ici une dizaine de jours. Céline Chanas, la présidente de la Fédération des musées, a un message pour lui ce matin.
Je pense que nos musées ont vraiment agi depuis un an en grande responsabilité. On a développé des protocoles extrêmement précis. Dans les musées, il faut savoir que déjà, on ne touche pas les objets. On a des espaces qui sont quand même relativement vastes. On a beaucoup de musées, de centres d'art où on n'a pas, entre guillemets, une surfréquentation. On a plutôt une fréquentation territoriale, locale. On a largement 10 mètres carrés par personne. On est en mesure de garantir cela. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un certain nombre de musées qui sont associatifs, qui sont peut-être menacés de fermeture ou en tout cas de ne pas réouvrir à l'issue de cette crise. Et puis, si on compare finalement l'ouverture de certains lieux culturels, je pense notamment aux bibliothèques, les musées, les écomusées notamment, peuvent jouer ce même rôle d'établissement culturel de proximité et on appelle finalement à s'aligner sur cette ouverture qui est toujours réelle pour les bibliothèques.
Céline Chanas, présidente de la Fédération des écomusées et des musées de société au micro européen de Diane Chenouda. Un dernier mot de sport et en football, Monaco et le PSG dernier qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Paris a écrasé Angers, score sans appel 5-0 et Monaco a battu Lyon sur sa pelouse 2-0.
Merci Théo Manval, vous êtes sur Europe 1, alors avant 9h vous le savez, Nicolas Canteloup, bien sûr on va retrouver Fanny Agostini et Jimmy Mohamed. Vous connaissez Charlotte Cardin, Théo ?
Pas du tout.
Alors on va découvrir ça ce matin. Chanteuse canadienne dont le nouvel album sort demain et c'est Angèle Châtelier qui va nous faire découvrir. Moi j'ai découvert avec Angèle Châtelier Charlotte Cardin, c'est formidable.
Ça a l'air très bien.
Très puissante. On écoute le monde chanter, c'est dans quoi ? Attendez, je regarde l'heure, je calcule dans moins de 10 minutes. Vous restez bien sur Europe 1. D'abord la météo avec Laurent Cabrol.
Le soleil est là aujourd'hui sur la France et nous allons en vivre et nous allons en profiter. Nous avons un temps le plus souvent ensoleillé, sauf sur le Piémont pyrénéen avec de la pluie, avec quelques orages cet après-midi, mais également sur Languedoc-le-Roussillon, le Béarn. Que des averses, il pourrait y en avoir sur la moitié sud, mais vraiment très rare. Alors que sur la moitié nord, nous aurons beaucoup de soleil. Température entre 16 et 21 degrés, ce sera notre moyenne nationale. Vous aimeriez peut-être connaître le temps qu'il fera l'été prochain, eh bien je ne vous le dirai pas. La clé de notre climat, puisque c'est la journée de la Terre, c'est Europe 1, c'est la mer, c'est l'océan, c'est là que tout se passe. Les courants marins promènent les températures sur le globe, c'est là que naissent les nuages, les cyclones, les vents et disons-le, on ne sait pas grand-chose de la vie profonde des océans. Wow. On n'en sait pas assez. C'est dans ces profondeurs que nous aurons la réponse essentielle à notre climat. Et la climatologie est la science la plus jeune, mais très vite, je pense dans 10 ans, je serai là pour vous dire le temps qu'il fera l'été prochain.
Non mais c'est vrai Laurent Cabrol, vous avez raison, on s'intéresse trop peu aux océans qui ont un impact immense, majeur, en tout cas dans ces questions de lutte contre le réchauffement climatique. Laurent Cabrol, c'est la journée de la Terre, on va en reparler hein, évidemment ce matin, 8h38.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bon réveil sur Europe 1. Et si on parlait de la journée de la Terre avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous nous parlez ce matin du lien qui ne paraît pas forcément évident comme ça, mais vous allez l'expliquer, entre le réchauffement climatique et notre santé.
Exactement. On pense souvent à tort que le réchauffement climatique ne concerne que la planète alors qu'il a un impact sur notre santé. Saviez-vous qu'il existe un lien entre réchauffement climatique et les allergies saisonnières ? Alors c'est tout simple, mais la hausse des températures avec des automnes et des hivers plus doux favorise l'expansion d'une plante qu'on appelle l'ambroisie, dont le pollen augmente les allergies saisonnières. Et puis, qui dit réchauffement climatique dit augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et on le sait, ce dioxyde de carbone favorise aussi le développement de la végétation. Il existe donc un lien entre l'augmentation des allergies et le réchauffement climatique. Et tout ça, c'est sans vous parler des vagues de chaleur et de canicule ou même de l'augmentation de certains moustiques qui pourraient nous transmettre certaines maladies comme la dengue, la fièvre jaune ou même le chikungunya.
Oui, c'est vrai que les vagues de chaleur dans les régions où on n'a pas forcément l'habitude, ça met nos organismes à rude épreuve parfois. En revanche, tout le monde sait, Jimmy, que la pollution atmosphérique est néfaste pour notre santé. Les liens là sont beaucoup plus clairs.
Et oui, mais pourtant, ça paraît parfois abstrait. Si je prends l'exemple des microparticules, on le sait, ce sont des toutes petites particules qui ne vont pas pouvoir être éliminées par le mucus, c'est-à-dire par vos sécrétions bronchiques. Elles vont donc pénétrer dans vos bronches jusqu'à la circulation pulmonaire. Elles vont stagner à un endroit où elles ne devaient pas être et l'organisme va se dire qu'il y a un problème. Il va donc entraîner de l'inflammation. Et on le sait, vous allez à ce moment-là avoir plus de crises d'asthme ou plus de bronchite chronique. Mais en plus de ça, ça va aggraver certaines maladies comme l'hypertension artérielle, certaines maladies coronariennes comme l'infarctus. Et puis, n'oubliez pas que vous avez une barrière entre vos poumons et la circulation sanguine. Vous avez une espèce de membrane. Et à cause des particules fines et de l'inflammation que ça va provoquer, eh bien, cette barrière va devenir plus perméable. Elle va donc faciliter l'entrée de certains virus et donc de certaines infections respiratoires. D'ailleurs, certaines études suggèrent un rôle de la pollution dans la surmortalité du coronavirus d'environ 15%. Alors, on peut essayer au quotidien de limiter l'impact en essayant d'ouvrir ses fenêtres très tôt le matin, d'éviter de le faire en pleine journée ou de contrôler le niveau de pollution disponible sur certains sites internet. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contrairement au coronavirus, il n'existe pas de vaccin contre la mauvaise qualité de l'air et le changement climatique. Le remède viendra tout simplement dans le fait de limiter nos émissions de CO2.
Merci Jimmy. Jimmy, on vous retrouve à 15h avec Mélanie Gomez pour l'émission Santé d'Europe 1. Sans rendez-vous, Journée de la Terre toujours.
Exactement. Ce que je vous ai dit n'était qu'un starter. On reçoit justement le professeur Bruno Housset. Il est pneumologue et président de la Fondation du Souffle et il reviendra plus longuement sur le lien entre la pollution et votre santé.
Merci beaucoup Jimmy Mohamed. Toute la journée Europe 1 passe à l'action. C'est la journée de la Terre et dans tous nos programmes, dans tous nos journaux. Tiens, je vais vous donner quelques éléments du programme Maud Fontenoy, par exemple, qui a invité Dan Roumanoff dans Ça fait du bien entre 11h et midi et demi, 8h41. Et Fanny Agostini, qu'on va retrouver tout à l'heure, qui nous fait quelques indices fidélité avec Philippe Vandel dans Culture Média. Mais comme tous les matins, notre planète. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À cette occasion de la Journée de la Terre, vous vouliez nous annoncer une grande nouvelle pour la planète. Vous nous dites que les Nations Unies ont adopté un nouveau système de comptabilité tenant compte de l'état de la nature.
Oui, c'est exact. Les pays membres des Nations Unies se sont mis d'accord pour adopter ce nouveau système de comptabilité. Cela s'appelle le système de comptabilité économique et environnementale. Ces dernières années, c'est vrai que de nombreux rapports cherchent à chiffrer le coût de l'activité humaine et de l'inertie face au changement climatique. L'ONU mise sur ces statistiques pour permettre aux pays de mieux quantifier et de cibler les programmes de préservation de la nature.
Une nouvelle comptabilité qui vient combler les défaillances de l'indicateur classique que nous connaissons tous, le fameux PIB, le produit intérieur brut.
Oui, cela fait 70 ans que le PIB est le critère dominant pour évaluer la croissance économique. Mais il est très incomplet en fait, incapable de prendre en compte les services rendus par la nature et surtout les dégâts qui lui sont causés. Par exemple, avec le PIB, une activité industrielle qui pollue l'eau est comptabilisée comme de la richesse, car il va falloir la dépolluer et ça génère du PIB. Une catastrophe naturelle et les emplois liés à la reconstruction permettent aussi de booster le PIB. Mais à aucun moment, les dégâts en eux-mêmes et leurs répercussions ne sont considérées, ce qui biaise énormément notre perception du progrès économique.
Mais vous dites, Fanny, que tout le monde ne pense pas, y compris du côté de certains économistes et écologistes, qu'une telle comptabilité soit forcément une bonne chose ?
Absolument. Ce scepticisme s'explique déjà par le fait qu'une base de données n'est rien de plus qu'une information. Puisque sa valeur marchande sera clairement chiffrée par une organisation mondialement reconnue, le capital naturel pourrait devenir l'objet de préoccupations rentières et de spéculations. Mais en dehors de cette préoccupation, l'utilisation du système de comptabilité économique et environnementale va au moins permettre de voir si les tendances des écosystèmes suivent les objectifs politiques fixés par les gouvernements, ce qui nous permettra de mieux discerner si les promesses sont à la hauteur des enjeux et si elles sont véritablement tenues.
Fanny Agostini, merci Fanny, notre planète tous les matins sur Europe 1, 8h44. Nicolas Canteloup, le meilleur de la revue de presque dans un instant, mais d'abord, Angèle Châtelier, on écoute le monde chanter sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46, vous êtes sur Europe 1 et on continue toute cette semaine d'écouter le monde chanter avec Angèle Châtelier. Bonjour Angèle.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On découvre avec vous ce matin la chanteuse canadienne Charlotte Cardin.
Oui, écoutez Mathieu, rien que sa voix.
I need your help, baby. Tell me I'm a good girl, don't you leave me. I die, I'm only good by your side, baby.
Charlotte Cardin nous vient tout droit de Montréal. Et à 26 ans, ses tubes cumulent déjà des centaines de millions d'écoutes sur les plateformes de streaming. Charlotte Cardin a grandi dans une maison où son père écoutait Led Zeppelin, AC/DC, sa mère plutôt Joe Dassin, Charles Aznavour.
Ah oui, c'est un bel héritage.
Voilà, elle a mélangé un peu tout ça. Mais elle se destine d'abord à une carrière de mannequin qu'elle abandonne et elle participe à des télécrochets au Canada. Elle dévoile des mini-disques. Et demain, Charlotte Cardin sortira Phoenix, son premier album renversant. Comme la légende du phénix qui renaît de ses cendres, ce disque est sa résurrection. Enfin, elle a cessé de faire ce qu'on attendait d'elle pour se révéler pleinement, c'est ce qu'elle m'a confié.
Avant, j'écrivais beaucoup de la musique en pensant à ce que les gens peut-être s'attendaient à recevoir de moi, cette volonté de vouloir plaire ou en tout cas de vouloir donner ce que je crois qu'on s'attend à ce que je donne.
Tell me what you want me to do. I'll do.
Et pour cet album-là, j'ai vraiment voulu écrire des chansons pour moi et le faire uniquement pour moi. Ça a vraiment été quelque part thérapeutique, cet album-là, à plein de niveaux.
Charlotte Cardin est enfin libérée et comme souvent c'est lorsque les artistes sont les plus honnêtes que leur album est le plus réussi. Un album qui parle aussi bien de cette libération que d'amour. Évidemment, en témoigne sa chanson Sad Girl.
What can a sad girl do? Take a look at your phone. You got a man up, yeah, I want you home. I'm new. I've been all alone and crying all the time. You, baby, where you at? You gotta show up, yeah, I want you back.
Et Angèle, beaucoup d'artistes aujourd'hui n'hésitent pas à assumer, à revendiquer leur féminisme. Oui. Est-ce que c'est le cas, je pense à Angèle, à Suzanne par exemple, qui l'évoquent même dans leurs chansons. C'est le cas aussi chez Charlotte Cardin ?
Oui, elle évoque le fait d'être une femme dans l'espace public par exemple, le regard que les hommes peuvent porter sur nous, la difficulté que les femmes ont aussi parfois à s'assumer et aller jusqu'au bout de leur passion. C'est d'ailleurs le message qu'elle a envie de faire passer aux femmes, aux petites filles. On l'écoute.
Ce que je dirais à toutes les filles, à toutes les femmes, c'est de vraiment... trouver ce qui nous donne envie d'être différentes et non pas dans les réseaux sociaux, bien sûr, pas dans la comparaison. Moi, à partir du moment où j'ai trouvé ma passion et ce qui me faisait me sentir le plus heureuse et le plus libre, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment trouver plus de bonheur que j'en avais jamais trouvé.
Charlotte Cardin.
jardin. Donc je dois le dire, en fait, je découvre complètement. Vous libérée aimez et heureuse dans son premier album que vous venez de nous faire découvrir. Oui, j'aime beaucoup. Très puissante.
Elle a une voix incroyable.
Bon, en tout cas, je veux bien en écouter encore.
Ok, on fait ça. Voici donc Meaningless de Charlotte Cardin sur Europe 1. But it never quite fills the void. Thought that we were two for good. But love is never like it should. I can arrange meeting a stranger for gay you a day. But I can't imagine what even happens beyond the pain. See the sun leading us to the land of the lost and the reasonless. Hear the drum beating us, our forever surrender.
Extrêmement puissante, hein. Charlotte Cardin, que nous découvrons ce matin avec Angèle Châtelier. Merci encore Angèle, on vous retrouve demain matin à 8h45 bien sûr, pour écouter le monde chanter. 8h52, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, les meilleurs moments. Ce matin-là, on avait reçu le ministre de l'Éducation, il était venu nous donner un cours de gym. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Jean-Michel
Blanquer. Et un, et deux, et trois, quatre, un, deux, trois, quatre. Allez hop Julie, face au quadriceps, tension, flexion, et un, et deux, et quatre, et trois, et deux, extension, et cinq, et six, et sept, et huit, Monsieur Béillard, oui. On reste concentré, on fléchit plus bas Monsieur Béillard, on flex, 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 je continue, même si Bertrand Chameroy s'est bien foutu de ma gueule ce matin, six, sept, huit, neuf,
non,
neuf,
non, ça
neuf,
va, enfin,
quatre,
on,
trois,
on
deux,
va pas
huit, et on fait des maths en même temps,
stop,
trois,
on va pas
deux,
faire...
un,
Monsieur
six.
Blanquer, non, on va pas faire de sport dans le studio, désolé.
Mais si,
non.
Écoutez, si votre corps... Vous savez, votre corps, vous n'en avez qu'un, hein, alors on l'entretient, le corps, au quotidien, c'est important. C'est un corps sain qui vous permettra d'affronter la pandémie. Par ailleurs, je vous invite donc à suivre ma chaîne Instagram. Oui, j'ai une chaîne Instagram, monsieur Béliard, Jean-Michel Fitness. Vous pourrez trouver toutes les références de mes boissons protéinées, mes programmes de musculation pour perdre votre graisse. Parce que je vous regarde là, vous, tous autour de ce studio, vous pouvez tous vous inscrire, il y a du travail.
Oh, ça va, oui.
Allez, on reprend. Allez, on passe aux pompes. Allez, 10 pompes claquées pour tout le monde, vous êtes prêts? Vous avez tous du cul à perdre, allez.
Non mais, ça
allez,
va.
Julie, 5 pompes pour vous,
Monsieur
Julie, 3 pour Cabrol, allez. J'ai déjà en sueur, Cabrol. Monsieur Béliard, je vous fais un rééquilibrage alimentaire. Il n'y a pas assez de légumes dans votre alimentation, Monsieur Béliard. Non, les saucisses, c'est pas un légume. Non. Faut faire des bols avec du quinoa, du chou calé, des graines de chia, de la spiruline, du tofu nature et des flocons d'avoine. Ouais. Vous allez voir, ça vous changer la vie. Moi, depuis que j'ai commencé le sport, je suis plus même homme.
Mais vous avez commencé quand le sport?
Hier. Avec les gosses.
Avec les gosses, oui.
Voilà, mais déjà, je sens la différence.
Ah,
toucher.
Ouais.
Toucher les pectoraux. Allez-y, Mme Julie, touchez. Attention. Mais attention, l'acier, c'est froid. Allez, on passe à la boxe. Allez, tout le monde à la boxe. Cabrol contre Vandel, ça va décoiffer. Vandel. Cabrol n'est plus coiffé depuis 1976. Allez, on y va.
Merci, Jean-Michel Fitness. À bientôt.
À bientôt.
C'est un petit événement ce week-end. Quelqu'un a gagné 200 millions d'euros à l'euro-million.
Oui, bonjour à tous. C'est Bruno Le Maire et bienvenue à ce tirage de l'euro-million. Oui, vous ne m'avez pas reconnu, je suis déguisé en Miss. Allez, sans plus attendre, découvrons si quelqu'un a empoché le pactole de 200 millions. Attention. Oui, il y a un vainqueur et bonne nouvelle, il est en France. Alors, je m'adresse immédiatement à cet heureux vainqueur. Mm-hmm. S'il vous plaît, monsieur, rendez les sous, hein, parce qu'on n'a plus une thune au gouvernement. On est endetté sur 1000 ans. Allez, faites, allez, soyez beaux joueurs, faites un chèque de 200 millions à l'ordre de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, Paris-Bercy. Hein, de toute façon, qu'est-ce que vous en foutez de tous ces millions? Les restos sont fermés, on n'a pas le droit de s'amuser et on peut voyager nulle part. Hein. Alors, rends les sous, ordure.
C'est vrai, vu comme ça.
Bah oui.
C'est presque du direct, le meilleur de la revue de presque sur Europe 1.
Allez, encore un mot de la vaccination anti-Covid. On commencerait donc par les groupes à risque. Et c'est Philippe Manœuvre qui est venu nous en parler. Tiens, bizarre, il y a une urgence pour vous, Philippe ?
Ouais. Salut Julie, salut Mathieu. Écoute, je vois un peu partout qu'on va vacciner les groupes à risque. Mais qu'on va démarrer dans les EHPAD et les maisons de retraite. Ouais. Ok, why not ? Mais pour moi, le groupe à risque, il faut absolument préserver, c'est les Stones.
Ah, les Stones, ben, c'est vrai qu'ils sont plutôt jeunes.
Ah ben carrément, tu l'as dit Juju, Keith Richards, 76 ans, Ronnie Wood, 73, Mick Jagger, 77 ans, Charlie Watts, le batteur, 79 ans, c'est THE groupe à risque. Pardon à papy César et mamie Yvonne, mais musicalement, je préfère, je te le dis tout de suite, les Stones aux reprises de Patachou et de Georges Brassens.
Oh bah oui, on imagine.
Hein, ouais. Ok, allez, à la picouse, les Stones. Hé, hey, Keith Richards, ça va te rappeler tes overdoses, mon pote.
Oh là là. On revient sur le vaccin Pfizer et ses effets secondaires. Je crois qu'on a un patient qui voudrait témoigner en duplex. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour. C'est Dominique Laurent.
Dominique Strauss-Kahn. Alors, vous avez essayé le vaccin Pfizer ?
Alors, pas exactement. Ah. Pas le vaccin, non. Mmh. J'ai longtemps essayé les produits Pfizer sous forme de petites pilules bleues. J'en bouffais comme des Smarties.
Oh là là.
Et je connais très bien leurs effets secondaires. Il n'y a pas, je tiens à vous confirmer, il n'y a pas de perte de goût, de perte d'odorat. Non, les produits Pfizer entraînent plutôt une perte de votre carrière politique. Une perte de votre dignité aussi. Et accessoirement, perte de son slip.
Oui, on sait tout ça, allez.
Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse à retrouver sur Europe1.fr. 8h57, Philippe Vandel nous a rejoint en studio. C'est Culture Média qui va démarrer, c'est la journée de la Terre qui va continuer. Bonjour Philippe.
Exactement, bonjour Mathieu. À cette occasion, on sera avec la jeune militante écologiste Camille Etienne, porte-parole du mouvement On est prêt, et le vidéaste et activiste Vincent Verza. Lui, sa chaîne, c'est Partager, c'est sympa. C'est vrai qu'on est prêt et que Partager, c'est sympa. Au sommaire également, quelqu'un que vous connaissez bien, qui est tous les matins dans votre émission.
Notre planète, Fanny Agostini.
Exactement, elle est aussi sur Ushuaïa TV. Elle célèbre la nature et toutes ses initiatives en compagnie d'une personnalité. Cette fois-ci, c'est l'activiste et réalisateur Cyril Dion qui s'est prêté au jeu. Et il sera également avec nous. Et puis le DJ et producteur Yuxek. Vous le connaissez, même si vous ne le connaissez pas, vous avez vu En Thérapie. C'est lui qui a fait la musique de En Thérapie, la série phénomène d'Arte. 36 millions de vues déjà.
Il va nous présenter son
nouvel album. Ouais. Alors, ouais. Nouvel album, il n'est pas du tout envoûtant. Il est complètement barré, complètement dingue. Il s'appelle Destino et lui s'appelle Yuxek.
C'est Culture Média de 9h à 11h, la journée de la Terre, c'est sur Europe 1. Europe 1 passe à l'action. Vous aurez Maud Fontenoy, par exemple, parmi les invités d'Anne Roumanoff. Ces questions que nous soulèverons à la mi-journée dans Europe Midi, dans Sans Rendez-vous, dans Historiquement Vôtre. Vous restez avec nous. Moi, je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.